Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. John Lyndon à la présentation de cette émission qui est mise en onde par Michel Joseph et produite par Tara Wale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Que pensez-vous de l'escalade verbale entre Pyongyang et le président Donald Trump qui semble tous menacés de recourir aux armes? En effet, la dernière mise en garde de Donald Trump ajoute à la surenchère verbale de ces derniers jours. Ce vendredi, il a laissé entendre que les options militaires avec la Corée du Nord sont en place et prêtes à l'emploi. Jeudi, il avait déjà défendu sa formule controversée promettant le feu et la colère à Pyongyang, estimant qu'elle n'était peut-être pas assez dure. La Corée du Nord a, elle, présenté un projet pour tirer 4 missiles au-dessus du Japon vers le territoire américain de Guam, avant-poste stratégique des forces américaines dans le Pacifique. Ce vendredi, la chancelière Angela Merkel s'est opposée à toute solution militaire face à la Corée du Nord et a dénoncé l'actuelle escalade verbale entre Pyongyang et le président Donald Trump qui ont menacé de recourir, on l'a dit, aux armes. Alors, l'escalade verbale entre Pyongyang et le président Donald Trump va-t-elle déclencher un affrontement militaire, voire nucléaire? C'est autour de cette question que s'articule l'Amérique et vous de ce vendredi. Pour participer, laissez-nous vos commentaires et numéros sur Facebook ou appelez-nous directement au 001-202-205-2633. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur www.voafrique.com. Pour nous accompagner dans cette émission, nous aurons l'ambassadeur Herman Cohen. Herman Cohen, bonsoir. Herman Cohen, bonsoir. Voilà, j'ai pas le sentiment qu'on
bonsoir.
A... Voilà, merci bien. Alors, merci Excellence d'être avec nous. On a également Frédéric Castel, qui est journaliste à BBC Afrique. Frédéric, bonsoir. Frédéric, bonsoir.
Vous entendez bien, moi je vous entends très bien.
Voilà, moi je vous entendais pas. Merci d'être là. On va commencer. On aura également probablement Henri Désiré Nzosi au cours de cette émission. On va commencer par vous, l'ambassadeur Herman Cohen. Quelle analyse vous faites de toute cette actualité, de cette escalade verbale entre Pyongyang et Washington?
Alors, je suis un peu surpris qu'il y avait cette escalade, parce que qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'était un article dans notre journal ici, le Washington Post, qui a fait un rapport venant d'une agence de renseignement américain qui disait que la Corée du Nord a perfectionné une bombe atomique miniaturisée,
oui.
Qui peut être mis sur un missile. Donc, cet article, qui n'était pas confirmé par personne, a déclenché toutes ces déclarations, ce panique. Je suis assez déçu que quelques dirigeants n'ont pas resté calmes. Je suis content que notre ministre des Affaires étrangères, M. Tillerson, quand il était à Guam, par coïncidence, il a dit « il faut pas paniquer, rien n'est vraiment changé, il faut faire la diplomatie, il faut pas avoir peur ». Donc ça a soulagé beaucoup de monde, mais je suis surpris qu'il y avait toutes ces déclarations avec panique de la part de notre président.
Voilà, on va discuter de tout cela au cours de cette émission. Frédéric Castel, vous, que vous inspire cette actualité?
Cette actualité, bien sûr que la nouvelle des progrès technologiques en moyens nucléaires et en missiles aggrave la situation. Mais sinon, la rhétorique et l'escalade verbale a commencé il y a des décennies entre Pyongyang, la capitale de Corée du Nord, et Washington. Donc c'est une vieille tension qui tout d'un coup évidemment a repris beaucoup d'activité et à cause des progrès sur tout ce qui est armes stratégiques, évidemment il y a une inquiétude croissante. Et je crois que le président Trump, rentre dans cette espèce de joute verbale, de bataille verbale, et répond exactement pratiquement sur le même ton à Kim Jong-un, qui est un jeune leader, hein, qui a à peine 34 ans, pour lui faire comprendre que, bien sûr, le plus fort, s'il y avait une offensive militaire nord-coréenne, les plus forts sont les Américains. Mais heureusement, comme vous le disiez, que monsieur l'ambassadeur, Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, aussi bien que Jim Mattis, le ministre de la Défense, rappellent bien sûr que d'abord, il y a toute la diplomatie qui doit se mettre en place et que, avant tout, comme l'a dit Jim Mattis, le but, c'est d'éviter une guerre nucléaire. Et aujourd'hui même, encore, dans les dernières heures, Pyongyang n'hésite pas à parler de guerre nucléaire. Or, c'est pas du tout à l'ordre du jour, même s'il pourrait y avoir un accident.
Voilà, on va développer tout cela. On accueille également Henri Désiré Nzosi. Henri, bonsoir.
Oui, bonsoir John et bonsoir à nos auditeurs.
Alors, la question d'ouverture, c'est celle que je posais aux autres invités qu'on a dans cette émission, l'ambassadeur Herman Cohen et puis Frédéric Castel, journaliste à BBC Afrique. Quelle analyse vous faites de cette actualité?
Bon, d'abord, rappelez peut-être que c'est depuis octobre 2006 que la Corée du Nord a procédé à ses premiers essais nucléaires. Depuis cette période, ça a été rappelé à l'instant, il y a eu une tension quasi permanente. Mais ce qui est inédit ici, évidemment, c'est, je dirais, la régularité avec laquelle le président américain répond coup pour coup, d'une certaine manière, hein, si l'on devait considérer cela comme une partie de ping-pong. Ce qu'il faut également ajouter peut-être dans le cas de Donald Trump, c'est que comme il est en difficulté sur le plan intérieur, il n'a pas d'autre choix que de réagir à la menace en affirmant à la fois sa fermeté et son autorité. Une manière pour lui de montrer qu'il est en capacité de réagir en cas de péril contre les États-Unis. Tout cela dans un contexte évidemment de très forte inquiétude où, vous le savez, je pense, hein, il y a une grosse semaine de cela, une nouvelle série de sanctions a été adoptée contre la Corée du Nord. C'est exactement le septième train de sanctions qui ont été adoptées contre ce pays. Et l'on sait que depuis que ces trains de sanctions sont adoptés, eh bien, la Corée du Nord n'a eu de cesse que de multiplier les provocations et de s'enfermer davantage dans cette rhétorique belliqueuse.
Alors, justement, cela m'amène à poser la question à Frédéric Castel. Est-ce que ce ne sont pas plutôt les déclarations de Donald Trump qui enveniment la situation, puisqu'on est quand même habitué aux déclarations et aux actes des dirigeants nord-coréens?
C'est sûr, comme vous venez de le dire, effectivement, il répond, c'est une partie de ping-pong qui a commencé, mais enfin, il faut rappeler que tout quand même part de Pyongyang. C'est quand même Pyongyang qui fait cette série d'essais de missiles sans prévenir qui que ce soit, en mettant en danger tous les pays de la région, et qui met des moyens et qui a une rhétorique toujours contre l'Amérique, comme si la guerre de Corée, qui s'est arrêtée dans les années 50, était encore d'actualité. Donc il y a la tension quand même, il ne faut pas renverser non plus, et être dans une situation de paradoxe, c'est quand même pas le président Trump, sans prendre sa défense, qui jette de l'huile dans le feu. Il y a déjà une situation très tendue. Mais à part ça, on y reviendra peut-être plus tard. Moi, j'étais dernièrement en Chine et dans la région, et j'ai été en contact encore aujourd'hui avec des gens qui travaillent en Corée du Nord. En Corée du Nord, pour l'instant, il n'y a aucune préparation à la guerre. C'est juste donc une rhétorique. Et je reviendrai sur ça parce qu'on est à l'époque des prochaines moissons et que c'est un pays qui est en difficulté alimentaire. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas du tout de guerre imminente. Comme le disait très bien Rex Tillerson, il n'y a pas de menace imminente. Et même pour les Américains, qui ont des gros moyens, il n'y est pas question de commencer une guerre dans les prochaines... d'une façon rapide. Ça prend beaucoup de temps d'entrer en guerre.
Tout à fait. On va parler de tout cela. Avant de prendre notre premier auditeur, je vais revenir à l'ambassadeur Cohen. On le constate donc au sein même de l'administration. Tout le monde n'est pas va-t-en-guerre. Vous avez cité le cas de Rex Tillerson tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que pour ce cas-ci, Trump va s'aligner, parce qu'on a souvent vu Trump dire ceci et son administration faire autre chose? Est-ce qu'on peut s'attendre à cela ou tout au moins ils vont s'accorder?
À mon avis, le président va se calmer et rien ne va changer. Et il ne faut pas oublier un autre événement, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 jours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à unanimité des sanctions très graves contre Corée du Nord. Ces sanctions vont priver Corée du Nord de 1 milliard de dollars par an de revenus. Et ça, c'est très important. Et ce qui est très étonnant, c'est que la Russie et la Chine ont voté pour cette résolution. Donc, c'est-à-dire que la Corée du Nord n'a pas d'amis. Et ce sont des actes comme ça qui vont faire pression sur Corée du Nord, qui comptent beaucoup plus que les déclarations d'un président, à mon avis.
Voilà, merci pour cette réaction. On va prendre un premier auditeur au téléphone. Il s'agit de James Gonomoga Onsala. James, bonsoir.
Oui.
Alors, vous nous avez écrit sur Facebook, et pour vous... il faut que les deux pays fassent la guerre et puis, suivant ce que vous avez dit, celui qui va gagner sera respecté par la Russie. Est-ce que ce n'est pas un message un peu va-t-en-guerre, justement?
Oui, effectivement, cette histoire de menace entre Trump avec Pyongyang, nous l'avons écoutée il y a longtemps et ils ont fait peur vraiment au monde. Si aujourd'hui ces deux pays puissants s'affrontent, comme ça, on verra au moins le vainqueur. Après cela, les autres pays, comme la Russie, qui s'entêtent quelquefois aussi, peuvent se méfier aussi de celui qui serait vainqueur.
Mais James, il ne s'agit pas de pays, il s'agit aussi d'êtres humains. On parle quand même là d'armes nucléaires et d'armes qui peuvent tuer. De toute façon, merci pour votre contribution. Je vais revenir à nos auditeurs. Henri, est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe autour de Kim Jong-un? Est-ce qu'il agit seul ou avec l'aide des conseillers, à votre avis? La même question est valable d'ailleurs pour Frédéric Castel.
Bah, écoutez, il y a une tradition qui remonte déjà à son père et à son grand-père. Donc il y a une forme de collège décisionnel qui encourage ce type de prise de risque et qui fait qu'aujourd'hui, au fond, la Corée du Nord semble surfer sur, au fond, une sorte de posture vis-à-vis du tout-puissant pays qu'est l'Amérique. Et vis-à-vis duquel, évidemment, il y a des menaces qui sont proférées, histoire de pousser à bout ce pays qui, de toute manière, il faut bien le dire, est quand même assez mal pris, puisque dans le meilleur des cas, si les menaces sont mises à exécution et que les missiles qui ont été annoncés s'échouent à quelques milles nautiques de l'île de Guam, il faudra que l'Amérique au moins réagisse, soit en interceptant ces missiles, soit en les laissant tomber, mais dans les deux cas de figure, évidemment, la situation serait extrêmement délicate. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, évidemment, c'est que, bien évidemment, que l'Amérique a intérêt à temporiser, puisque en cas de problème, et j'espère qu'il n'y en aura pas davantage, il faut bien savoir que la première réaction de la Corée du Nord serait d'abord de s'attaquer aux alliés américains. Et donc, une politique de la terre brûlée qui consisterait à impliquer davantage de pays en cas de conflit.
Voilà, Frédéric Castel, votre réaction. Est-ce que Kim Jong-un agit seul ou il a des conseillers?
Certes, il a certainement forcément déconseillé, mais c'est la tradition familiale, comme on vient de le dire, depuis le grand-père et le père. Il n'y a qu'une seule personne qui décide à Pyongyang ce qu'il se passe, personne d'autre. C'est un régime dictatorial absolu, et donc il n'y a personne qui soulève la moindre question. Pour répondre à la question à la remarque de l'auditeur, il faut se rappeler que le moindre conflit serait catastrophique dans la région, non pas simplement pour les pacifistes, mais pour la réalité, c'est que Séoul, la capitale de la Corée du Sud, est à peine à moins de 50 km de la frontière de la Corée du Nord. Et sur toute la frontière, les forces nord-coréennes, il n'y a pas simplement les missiles, il y a des batteries classiques, des batteries qui existaient déjà à Première et Seconde Guerre mondiale, améliorées, qui feraient pleuvoir un nombre de bombes catastrophiques sur une ville de 10 millions d'habitants qu'on ne peut pas évacuer ni protéger. Donc tout le monde sait très bien, et c'est à cause de ça d'ailleurs que les administrations américaines, bien avant l'administration Trump, ont été très tentées de faire des attaques pour arrêter les progrès dans les recherches nucléaires et les recherches de missiles, mais ils ont toujours été bloqués parce qu'ils se sont dit on met en danger Séoul et toute la Corée du Sud, sans parler bien sûr du Japon, etc. Mais Séoul est juste à portée de tir d'artillerie de la Première ou Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ne peuvent absolument rien faire. Quand après, et on parle du scénario vers Guam, on en est loin, même si les progrès technologiques sont avant extrêmement vite en Corée du Nord, beaucoup plus vite que les prévisions des experts du Pentagone et occidentaux en général, ils ne pourront pas demain dire viser Guam comme ils le veulent. C'est extrêmement complexe. Ils ne maîtrisent pas encore du tout la technologie précise du missile. Le dernier missile, le 29 juillet, la rentrée balistique a complètement échoué. Les caméras japonaises l'ont filmé. Et donc, on n'en est pas du tout à un vrai système. Mais bien sûr, il y a une menace à terme. C'est qu'ils vont arriver un beau jour, dans un an ou deux, à avoir effectivement une charge nucléaire sur un missile et pouvoir viser.
Voilà. Restez avec nous. On va prendre un autre auditeur, Julien Berrieka. Bonsoir.
Bonsoir, VOAfrique. Bonsoir, auditeur.
Voilà. Votre réaction en quelques mots.
Une réaction par rapport à la thématique et d'après mes analyses, je disais que la haine, c'est quand on oublie que nous sommes tous des humains et qu'ils méritent le même respect. Et ce respect, donc, doit d'abord à M. Pyong et Trump. Si Trump a au moins peut-être le respect pour tout homme africain ou bien pour tout homme noir, il doit au moins s'insérer à d'autres activités. C'est une manière de dire quoi ? Que nous cherchons à tuer sa carrière. Par exemple, si Trump veut tuer sa carrière, c'est une alternative. C'est plutôt sa crainte va le tuer.
Voilà. Merci Julien pour cette contribution. Ambassadeur Cohen, est-ce qu'il est encore possible de revenir autour de la table et de discuter sérénement comme à l'époque de Bill Clinton, par exemple, avec la Corée?
Je crois que c'est pas trop tard. À mon avis, au lieu de râler contre les Chinois, vous faites rien, vous êtes paresseux, etc., il faut demander aux Chinois d'organiser une conférence de tous les pays intéressés, c'est-à-dire la Chine, le Japon, Corée du Sud, les États-Unis, Corée du Nord, ou même la Russie, et organiser une conférence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la paix, pour que tout le monde n'a pas peur de tous les autres? Et je crois que c'est pas trop tard d'organiser ça, et je serais content d'avoir une diplomatie envers la Chine pour organiser ça.
Voilà. Frédéric Castel, si les choses devaient dégénérer dans le pire des cas, de prime abord, le rapport de force semble peser du côté des États-Unis, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre l'entrée en jeu de certaines autres puissances comme la Russie ou encore la Chine, surtout quand on sait que la Corée du Nord partage une frontière avec la Russie?
Et la Chine, oui, effectivement, c'est un très bon point, mais Pékin vient de l'indiquer très clairement. Si, alors qu'il y a un traité d'alliance très fort entre la Chine et la Corée du Nord, la Chine vient de dire, indiqué par ses dirigeants, que si la Corée du Nord venait à attaquer, la Chine n'interviendrait pas. Si l'Amérique, par contre, attaque la Corée du Nord pour effectivement arrêter les recherches, les progrès technologiques, etc., enfin une espèce de préemption, dans ce cas-là, la Chine interviendrait, car la Chine, il faut se rappeler, est très embêtée par cette situation. Ils ont un voisin extrêmement dangereux et très difficile à contrôler, mais ils veulent surtout pas qu'une disparition de la Corée du Nord et des Américains qui arrivent au nord du 38e parallèle, ce qui n'est pas le but d'ailleurs des Américains. Mais ils ne veulent pas avoir les Américains qui occupent la Corée du Sud et la Corée du Nord et d'avoir deux régimes qui soient pro-américains à leurs frontières sur toute cette longueur. Donc, pour l'instant, voilà, la situation est que la Russie, bien sûr, reste aussi un statu quo. Tout le monde incite à des négociations. Mais ce qui est intéressant de dire, je rajouterai par rapport à ce qu'a dit l'ambassadeur, c'est que Pékin aussi a dit que, au lieu de travailler avec le groupe des six, comme on l'a fait les années précédentes et les administrations précédentes, le groupe des six, c'est-à-dire la Russie, le Japon, enfin tous les pays concernés de la région, il faudrait une rencontre en tête-à-tête, parce que c'est un problème entre Washington et Pyongyang, et il faudrait qu'ils discutent entre eux. Voilà. Et là, effectivement, s'il est difficile de savoir quelle stratégie fonctionnerait, vous vous rappelez, il y a quelques mois, le président Trump lui-même a dit dans un tweet, il a dit je rencontrerai le Kim Jong-un, je suis prêt à faire en sorte qu'on aille à Pyongyang négocier.
Tout à fait.
Et puis, on ne sait pas très bien où est allée cette piste. Donc, comme toujours, comme souvent, le président Trump envisage énormément de pistes et est assez, voilà. Est assez annonce beaucoup de projets qui passent pas, qui lui passent par la tête, on peut dire.
Voilà.
Et il essaie d'un tout petit peu de voir comment ça va réagir. Mais
vous restez avec nous, vous restez avec nous. On se reprend avant la fin de cette émission, le temps d'avoir ces autres auditeurs. Brahima Doumbia, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
En quelques mots, votre réaction.
Je pense que la Corée du Nord est une toile d'araignée face aux États-Unis, même si la menace est réelle. Je pense que c'est juste des mots. Sinon, en réalité, la Corée du Nord n'est pas capable de lancer ses missiles, soi-disant, sur le territoire américain, vu le potentiel en armement, si vous voulez, des États-Unis.
Voilà. Merci, Doumbia. Yao Marcelin Kofi, bonsoir. Voilà. Votre réaction.
Oui, cette escalade verbale est vraiment regrettable. Il faut privilégier le dialogue. Dialogue est l'âme des forts.
Merci beaucoup. Amadou Diallo, bonsoir. Voilà. On tire presque à la fin de cette émission. Faya David, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
En quelques mots, votre réaction.
En fait, si, par exemple, Pyongyang et Donald Trump s'entendent ça sur quelque chose, ils doivent. C'est parce qu'il y a l'union et surtout que Pyongyang doit savoir que, par exemple, Donald Trump, il a toutes les possibilités.
Voilà, il a toutes les possibilités, Donald Trump, merci. On va faire un dernier tour de table avec nos invités. Henri Désiré, votre mot de la fin.
Écoutez, je pense qu'il faudra parler, il faudra partir de la proposition chinoise d'un double moratoire avec l'arrêt simultané des essais nucléaires d'un côté et puis évidemment l'arrêt des manœuvres militaires conjointes entre Américains et Sud-Coréens.
Voilà.
Ce serait une bonne base de départ pour des discussions.
Merci. Frédéric Castel, votre mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que, comme disait Rex Tillerson, il n'y a pas de menace imminente, il ne devrait pas y avoir de guerre sauf accident dans les prochains mois, mais la vraie menace, c'est qu'on ait une vraie impasse, c'est que Kim Jong-un est déterminé à arriver à avoir des missiles balistiques nucléaires pour viser l'Amérique, et les recherches vont continuer, et ça, les Américains ne le permettront pas, et donc on va vers une situation, certainement, de conflit, si on ne trouve pas une solution avant.
Voilà, merci. Ambassadeur Cohen, votre mot de la fin.
Oh, je crois que président Trump, qui aime beaucoup la sensationnelle, il faut qu'il aille là-bas à Pyongyang pour commencer les discussions lui-même.
Voilà. Merci à vous, chers invités, d'avoir été là. C'est la fin de cette émission de l'Amérique et vous sur VO Afrique. Je vous laisse en compagnie de Eric Manera-Kiza pour les informations. Cette émission était mise en onde par Michel Joseph et produite par Suleiman Tarawale et John Lyndon. Je vous l'ai présenté. Bonsoir.